Où est-ce que vous trouvez votre identité? Trois possibilités principales. Pour moi, je suis anglais, fils de mon père. On peut trouver ses origines, on peut trouver son identité dans ses origines. Autre possibilité, je suis pasteur adjoint de l'église de la Garenne-Colombes. On peut trouver son identité dans sa vocation. Troisième possibilité pour moi, je suis marié à Louise. On peut trouver son identité dans sa situation amoureuse. Où est-ce que vous vous trouvez votre identité? La difficulté, c'est que si un de ces piliers change ou disparaît, alors là, mon sens d'identité change ou disparaît aussi. Et peut-être que vous avez vécu cela, avec le chômage ou la retraite ou la fin d'une relation. Un autre passage aujourd'hui présente nos origines, notre vocation et le mariage, et nous allons voir où trouver notre identité. Je vais passer la parole à Joël pour la lecture qui se retrouve dans les Bibles blanches à la page 4. Joël.
Genèse 2, versets 4 à 25. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Et pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte.
Merci Joël, je vais prier. À notre Père Céleste, que maintenant la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Et s'il te plaît, montre-nous la vérité sur nos origines, sur notre vocation et sur le mariage, s'il te plaît. Amen. Amen. D'abord, ce matin, premier titre, l'homme est Dieu, un créateur à connaître. La semaine dernière, nous avons vu le récit cosmique de la création. Le Dieu éternel, il a créé le ciel et la terre et il les a remplis. Nous avons aperçu les montagnes sortir de l'eau. Nous avons vu les étoiles prendre place dans le ciel. et nous avons rencontré l'être humain formé à l'image de Dieu, homme et femme, pour ressembler à Dieu et le représenter sur la nouvelle terre. Cette semaine, merci Joël, nous lisons un deuxième récit de la création. Et si le premier récit nous a donné l'histoire cosmique qui prend le panorama de tout ce qui existe, de tout l'univers, ce deuxième récit, qui commence avec la phrase du chapitre 2, le verset 4, nous donne l'histoire universelle. L'histoire universelle et qui nous aide surtout à comprendre notre condition humaine. Moïse, l'auteur humain, aurait reconnu les différences entre chapitre 1 et chapitre 2 de la Genèse, mais rien ne nous oblige de les opposer l'un contre l'autre. Plutôt, j'espère que nous allons voir les similarités et comment les deux récits se complètent. Et notre récit, cette semaine, commence avec un paysage désertique et désolé. Le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Un paysage plutôt désertique et désolé. Mais il y a le potentiel pour la vie. Le verset 6, « Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface de la terre, du sol. » pardon. Mais Dieu n'a pas encore complété son œuvre de création et l'homme n'a pas encore commencé son œuvre. Et donc le verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Adam fut créé. Dieu est présenté comme un artisan, comme un potier qui façonne, qui modèle avec soin, avec les mains, le premier homme avant de souffler dans ses narines pour lui donner la vie. Dans Genèse 1, le premier récit de la création, Dieu est le créateur transcendant, le créateur éternel, incomparablement puissant qui fait tourner les galaxies. Dans Genèse 2, Dieu est également, cette fois-ci, le potier qui façonne l'homme intimement, lui donne la vie, qui généreusement pourvoit à ses besoins. L'homme et Dieu, nous avons un créateur à connaître. Et c'est une bonne nouvelle. Si nous craignons que Dieu soit trop loin, trop grand, trop infini pour s'intéresser à nous, il est vrai que Dieu est plus grand qu'on pourrait imaginer. Jonathan, nous l'avons déjà montré. Mais Dieu s'approche de nous. Et la Bible proclame que Dieu se révèle. La Bible proclame que la créature peut connaître son créateur. Et c'est en connaissant notre créateur que nous allons comprendre nos origines et notre vocation. Car Dieu n'est pas seulement potier, mais il est aussi jardinier. Dieu plante un jardin et il met Adam. Et là, nous commençons à découvrir la vocation de l'homme. Nous voyons l'homme et le monde, une création à découvrir. Et quelle création! Le jardin d'Éden, un nom lié aux délices, ça nous donne déjà une bonne idée de ce jardin. Il y a des arbres de toutes sortes, des fruits agréables à voir, bons à manger. Mais si Adam a une création à découvrir, il a aussi une tâche à accomplir. Une tâche à accomplir. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Adam a du travail à faire. Il doit cultiver et garder ce jardin, ce qui est un travail d'adoration et d'obéissance envers Dieu le Créateur. C'est aussi un travail de représenter Dieu et de continuer son travail. Dieu a planté le jardin. Maintenant, c'est à Adam de poursuivre son travail. Et cela nous rappelle ce que nous avons vu la semaine dernière. Adam et Ève créés à l'image de Dieu pour représenter Dieu sur terre, appelés sous l'autorité de Dieu à remplir la terre, à le soumettre et à dominer sur la création. Et ici, nous voyons la même mission, mais vue sous un autre angle. Il y a aussi une tâche à accomplir, car le jardin est petit. Est-ce que vous avez vu ça? Dieu planta, le verset 8, un jardin en Éden du côté de l'est. Mais au nord et au sud et à l'ouest, le jardin ne continue pas. Et selon le verset 10, il y a un fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin. Mais de là, le fleuve arrose aussi d'autres terres. Mais le jardin actuel est délimité. Et donc Adam a une tâche à accomplir. Car le jardin démontre la bonté du Créateur, la générosité de Dieu. Et le jardin qui démontre la générosité, la gloire, la bonté, le règne de Dieu doit grandir. L'être humain est appelé à remplir la terre. Mais ici, le jardin ne couvre qu'une petite parcelle. Toute la terre doit être remplie avec la gloire de Dieu. Mais on n'est pas encore là. Donc Adam a une tâche à accomplir. Mais comment peut-il accomplir cette tâche tout seul? On va y revenir. Mais d'abord, voyons que cette tâche nous incombe de représenter Dieu et de faire avancer le règne de Dieu dans sa création. Pour nous, ce n'est plus un travail de jardinage, mais les êtres humains vont proclamer plutôt parce que les êtres humains vont déclarer leur indépendance de leur Créateur. Le péché va bouleverser la création. Ce n'est plus un travail de jardinage. Mais aujourd'hui, le règne de Dieu avance chaque fois que quelqu'un reconnaît l'autorité de son Créateur. Le règne de Dieu avance chaque fois que quelqu'un se soumet à son Fils, Jésus-Christ. Le règne de Dieu avance quand nous vivons de plus en plus comme Dieu pour le représenter sur terre. Adam a une tâche à accomplir, mais il a aussi une loi à respecter. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu dit à Adam, mange! Il y a tellement d'arbres, tellement de fruits à découvrir, à goûter. Mange à volonté, c'est un buffet à volonté pour Adam. Mais parmi les arbres du jardin, il y en a deux qui ressortent de l'ordinaire. Il y a l'arbre de vie planté par Dieu qui nous rappelle que Dieu est la source de vie. Et ça fait partie du buffet à volonté pour Adam. Mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre fait partie de la bonne création de Dieu. Mais le droit de manger de cet arbre, le droit de partager cette connaissance du bien et du mal appartient à Dieu seul. Pourquoi? Parce que cette connaissance du bien et du mal veut dire définir et décider ce qui est bien et ce qui est mal pour l'être humain. Et Dieu seul sait ce qui est 100% bon, ce qui est 100% mal pour l'être humain. Dieu seul définit et décide ce qui est bien et mal pour nous. Parce que c'est notre Créateur. Parce que lui seul connaît toutes choses et leurs conséquences. Et parce qu'il est notre Créateur bienfaisant, nous devons lui faire confiance. Et la présence de cet arbre dans le jardin laisse le choix à l'homme de faire confiance à son Créateur ou pas. Il y a une loi à respecter et l'homme a l'occasion de faire confiance à Dieu, son Créateur, ou de proclamer son indépendance. L'homme a l'occasion de faire confiance à la bonté et à la générosité de Dieu, ou de faire de lui un rabat-joie. Et le même choix est devant nous tous, de faire confiance à la bonté de notre Créateur, ou de faire de lui un rabat-joie. L'homme et le monde, une création à découvrir, une tâche à accomplir, et aussi une loi à respecter. Mais dans ce jardin, il y a quand même un manquement. Il y a quand même un manquement, et c'est là où nous découvrons l'homme, la femme, une aide à célébrer. Le verset 8, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et c'est une phrase surprenante dans une situation d'abondance. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Est-ce que Adam souffrait de la solitude? Certes, la solitude humaine peut être accablante. Je ne pense pas que ce soit le cas pour Adam ici, et pour trois raisons. Premièrement, Dieu décide de faire pour Adam une aide, non pas un compagnon, mais une aide. Deuxièmement, Adam vivait déjà avec son Créateur. La Bible nous appelle à chercher notre satisfaction en Dieu, pas chez les autres. Et troisièmement, il y a du travail à faire. Le jardin est limité. Le jardin est limité à une parcelle de terre. Il y a toute la terre à cultiver, à garder. Et toute la création doit refléter la gloire et le règne de son Créateur. Comment est-ce qu'Adam pourrait faire ça tout seul? Et si nous revenons à notre vision cosmique, la création de la semaine dernière, Dieu a dit aux êtres humains de se reproduire et de remplir la création. Alors, comment est-ce qu'Adam pourrait faire cela? Tu sais, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, car il y a trop de travail à faire, trop de pain sur la planche, et lui seul ne peut pas faire d'autres petits jardiniers. Et donc, Dieu crée la femme. Et ensemble, ils vont pouvoir faire équipe. Ensemble, ils vont pouvoir apporter leur capacité différentes. Ensemble, ils vont pouvoir faire des enfants. Et ensemble, ils vont pouvoir se multiplier, se reproduire, faire d'autres êtres humains, créés aussi à l'image de Dieu, qui vont pouvoir travailler la création pour qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu. Et donc, nous lisons au verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Est-ce que vous entendez la joie d'Adam? L'homme et la femme, nous avons une aide à apprécier. Et ça vaut la peine de dire que « aide », ce n'est pas un mot péjoratif. 16 fois dans l'Ancien Testament, le même mot utilisé pour décrire Dieu lui-même. Mais ça reflète la symétrie qui existe entre l'homme et la femme. L'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Ils sont égaux devant Dieu. Mais les différences au-delà des différences biologiques existent. L'homme est créé en premier, la femme en deuxième. L'homme nomme les animaux et la femme reçoit son nom d'Adam. L'homme, il me semble, porte la responsabilité première pour l'agrandissement du règne de Dieu. Et la femme lui est donnée pour aider. L'homme et la femme, une aide à apprécier. Et c'est lorsque Adam et Ève se tiennent côte à côte que nous sommes les témoins au premier mariage officié par Dieu lui-même. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. Alors parlons du mariage. Ça ne fait que 7 mois que je suis marié avec Louise. Nous découvrons, nous apprenons la vie à deux. Et ces versets doivent être à la base de notre mariage, de votre mariage, si vous êtes marié, et de notre vision du mariage. Alors, qu'est-ce que nous voyons du mariage ici? Nous voyons un homme et une femme. La Bible ne voit pas de mariage entre deux personnes du même sexe. Nous voyons un homme qui quitte sa femme pour s'attacher à elle. Publiquement, l'homme et la femme commencent une nouvelle famille. Une nouvelle famille, un nouveau foyer. Et c'est là, dans cette nouvelle famille, dans le mariage, qu'ils sont décrits comme étant une seule chair. Une nouvelle unité qui ne devrait pas être brisée et qui s'exprime dans la vie sexuelle pour les unir ensemble et pour faire des enfants. Alors, où, en ce qui concerne le mariage et la sexualité, où sont les points de pression pour vous? Où est-ce que vous avez du mal à obéir au plan généreux, bienfaisant de notre Créateur pour le mariage? Nous voyons aussi que le mariage n'est pas fait pour satisfaire mes besoins. Nous voyons aussi que le mariage n'est pas fait pour satisfaire mes besoins. Mais le mariage est donné, est destiné à faire grandir le règne de Dieu. Si ce que j'ai dit concernant la solitude d'Adam est vrai, si c'est vrai qu'il était seul devant la tâche, ça souligne que le mariage n'est pas fait pour satisfaire mes besoins relationnels ou sexuels ou autres. Car si le mariage était pour satisfaire mes besoins, que ferais-je quand mes besoins ne sont pas satisfaits? Bouder, gronder, partir. Mais si le mariage est destiné à faire grandir le règne de Dieu, alors là, ça change nos décisions, nos prières, nos priorités. Nous allons nous chercher à nous marier avec une chrétienne, un chrétien, avec lequel nous pouvons servir Dieu et poursuivre ses priorités, au lieu de suivre les priorités de notre société. Dans le mariage, nous allons nous tenir côte à côte avec notre épouse, notre époux, pour servir Dieu, au lieu de chercher simplement à rester figé, à regarder dans les yeux l'un de l'autre. Nous allons aussi voir les enfants comme une bonne chose, une possibilité de faire d'autres disciples de Jésus, qui vont faire à leur tour d'autres disciples de Jésus, au lieu de voir les enfants comme ceux qui vont limiter notre indépendance, nos loisirs, nos priorités. Et si le mariage est pour faire grandir le règne de Dieu, nous saurons aussi que peu importe notre situation, peu importe notre situation, célibataire, marié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, divorcé, veuf ou veuve, capable d'avoir des enfants ou pas. Si le mariage est pour faire grandir le règne de Dieu, nous savons que peu importe notre situation, hommes et femmes, en équipe, dans l'Église, nous pouvons travailler ensemble pour faire grandir le règne de Dieu. Nous pouvons chercher à connaître Dieu, à vivre pour lui ensemble. Nous pouvons chercher à faire grandir son règne ensemble dans l'Église, proclamant sa bonne nouvelle ensemble. Car le mariage humain, c'est une parabole. C'est une parabole, la bonne nouvelle que nous voulons tous proclamer, de la relation que nous pouvons tous avoir. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul cite ces versets, et c'est là où nous allons finir. Parce que l'homme et la femme, nous avons tous les deux un sauveur à connaître, et je vais lire à partir du verset 25, Éphésiens 5, dans ma Bible blanche. C'est à la page 769. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je vais sauter jusqu'au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage, c'est une parabole de ce que Christ a fait pour chacun de nous. Car nous choisissons tous l'indépendance, nous préférons tous l'indépendance de notre Créateur. Et nous tombons tous devant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vocation, pour le mariage, pour la sexualité, pour notre vocation. Mais Jésus s'est donné lui-même pour notre pardon. Il a quitté son Père céleste pour entrer dans ce monde. Et par la foi en lui, le chrétien est uni à lui. Le chrétien est uni avec lui et lavé par lui pour apparaître un jour beau, belle comme une mariée. Et donc, nous pouvons chercher notre identité dans nos origines, dans notre vocation, dans notre situation amoureuse. Mais c'est en connaissant notre Créateur, en connaissant notre Sauveur, que nous découvrons notre vraie identité. Et c'est là que je vais prier, prions ensemble. Notre bon Père Céleste, que nous puissions te connaître, notre Créateur, de mieux en mieux. Et merci pour le Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions aussi le connaître de mieux en mieux. Et que notre identité, notre vocation, notre façon de voir ou de vivre le mariage viennent de toi, s'il te plaît. Amen. Amen. Maintenant.